Chers auditeurs et chères auditrices, nous continuons notre série concernant Jésus-Christ, la lumière, jusqu'au retour de Jésus-Christ, le Messie. Ce matin, nous aurons comme titre, d'abord numéro 34, c'est l'étude numéro 34, et le titre sera « Devant le tribunal du Christ ». Avec notre dernier message, nous avons franchi la ligne de démarcation, on peut bien le dire, entre l'état intermédiaire de l'âme après la mort et ce qui attend alors le croyant. Tout cela est très sérieux, vous le comprenez bien, et donc, s'il y a des citations bibliques, veuillez les noter, car c'est vraiment important que vous puissiez les relire. Très important. Nous avons entendu la trompette de la première résurrection. Nous avons vu les tombes des croyants, on peut dire, se vider carrément. Et nous avons vu le nuage lumineux enlever l'Église du Christ dans les airs. Tout cela pour être loin de ce monde du péché, du monde de l'affliction, et sans oublier, d'aujourd'hui plus que jamais, de la souffrance. Le nuage s'est à présent refermé, la séparation de l'Église et du monde est devenue définitive et sans appel. Maintenant, il se passe des événements très importants des deux côtés du nuage. Nous allons les examiner. Aujourd'hui, et dans notre prochaine étude, nous nous occuperons des événements qui se produisent du côté lumineux du nuage, ensuite de ceux qui se passent du côté obscur et noir. Nous resterons donc d'abord là-haut, dans le ciel, pour être témoins des événements qui s'y déroulent. Puis, nous reviendrons pour une courte visite sur notre planète où, avec des couleurs d'horreur et d'effroi, s'écrivent maintenant les derniers chapitres de son histoire aventureuse. Devant le tribunal du Christ, tel est le sujet de notre étude aujourd'hui, je voudrais tout de suite ajouter que nous sommes arrivés au point le plus important de cette série d'études pour la vie pratique du chrétien, en tout cas, c'est-à-dire de l'homme qui, par la grâce de Dieu, a profondément dans son cœur la certitude du salut. Là-haut, alors au-delà des nuages, un grand tribunal est installé. Le Christ y est assis et tout autour, pour la première fois uni, se trouve maintenant rassemblé son Église. Cette image n'est pas de moi, c'est la sainte parole de Dieu qui nous renseigne sur une telle réunion de l'Église là-haut, au-delà des nuages. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens romains, nous, et en disant nous, l'apôtre Paul parle pour lui-même et pour ses chrétiens de Rome. Donc, il s'adresse par conséquent à des gens, écoutez bien, à des gens sauvés. À des gens sauvés. Nous tous, nous comparaîtrons, dit-il, devant le tribunal du Christ, et chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains chapitre 14, versets 10 et 12. L'apôtre Paul écrit aussi aux membres de l'Église de Corinthe, c'est-à-dire à nouveau à des chrétiens. L'apôtre Paul dit, « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 2 Corinthiens, notez bien, chapitre 5, verset 10. N'oubliez pas de noter les citations bibliques que je vous donne. Chers amis, quelle sera la raison de ce rassemblement de l'Église? Il nous faut tout de suite montrer que le but de l'apparition des croyants devant le tribunal du Christ, écoutez bien, ne sera pas de juger leurs péchés, ni de décider s'ils sont admis ou non à la vie éternelle. Cela a été jugé ici bas. Et sur ce point-là, la sainte parole de Dieu est absolument catégorique. L'apôtre Paul écrit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux, écoutez bien, qui sont en Jésus-Christ. » Notez Romains, chapitre 8, verset 1. Et notre Seigneur a bien dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a ou elle a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il ou elle est passé de la mort à la vie. » Alléluia. Notez Saint Jean, chapitre 5, verset 24. Insistons avec force sur ce point, car il est digne d'être mentionné. La question du salut de notre âme, c'est ici-bas, je répète, c'est ici-bas qu'elle se décide. Et c'est ici-bas que chacun doit acquérir la certitude de son salut. « Je sais en qui j'ai cru », nous dit l'apôtre Paul. Notez 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. Et l'apôtre Jean, il dit, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. » Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Notez 1er épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 14. L'apôtre Paul et l'apôtre Jean ont fait ces déclarations durant leur vie d'ici-bas, avant de comparaître devant le tribunal du Christ. Et c'est pourquoi il se trouve parmi nous quelqu'un qui n'a pas au fond de son cœur. Je répète, s'il y a autour de nous, vous qui écoutez, quelqu'un qui n'a pas au fond de son cœur la certitude de son salut, je l'exhorte à régler cette importante question avant d'arriver là-haut, tant qu'il en a encore le temps et la possibilité dans la vie actuelle. Mais maintenant, si vous le voulez bien, retournons un peu là-haut. Le but du rassemblement de l'Église ne sera pas de juger, vous l'avez compris, si ceux qui la constituent auront part à la vie éternelle. On a bien compris. Mais, et j'insiste sur ce point, car c'est le cœur de notre étude d'aujourd'hui, c'est-à-dire de juger du contenu précis de cette vie pour chaque cas particulier. Car c'est encore un point qui ne s'énonce pas comme il le faudrait, souvent, du haut de nos chairs. Le contenu de cette vie éternelle ne sera pas le même dans tous les cas. Il y aura une grande diversité en ce qui concerne la vie éternelle suivant ce que aura été chaque chrétien. Le but de la comparution des croyants devant le tribunal du Christ sera donc de déterminer, selon le cas de chacun, le contenu exact de la vie éternelle pour lui et pour elle. Cela sonne peut-être étrangement aux oreilles qui sont, il faut bien le dire, habituées à entendre que le salut est donné par grâce, que cette grâce du Seigneur Jésus couvre tout, absolument tout, ce que nous comparaîtrons là-haut, hein, et que nous comparaîtrons, non selon nos œuvres, je dis bien non selon nos œuvres, mais vêtus de la tenue immaculée de la justice du Christ. Alors, cela est vrai, bien entendu. Je ne dirai jamais que c'est pas par grâce, c'est par grâce. Mais il faut aussi apprendre à comprendre le reste. Si cela est vrai et constitue le fondement de notre salut, personne ne comparaîtra là-haut pour revendiquer son salut grâce à ses œuvres ou à ses vertus. Ça, c'est l'œuvre exclusive du Christ. En ce qui concerne l'obtention du salut, l'apôtre Paul donne, je crois, et en le disant avec une voix forte, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, verset 9. Donc jusqu'ici, tout cela est vrai. Il ne peut pas être question des œuvres. Mais attention, dès que le salut est obtenu, les œuvres du chrétien régénéré, se révèlent comme des éléments qui doivent prouver l'authenticité de son salut et elles serviront à déterminer le contenu exact de la vie éternelle pour lui et pour elle. C'est ce point particulier qui nous intéresse aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ couvre tout, mais il ne couvre pas, il ne neutralise pas les influences qui s'exerce sur la vie du chrétien et il ne fait pas disparaître les conséquences que laissent ses bonnes et ses mauvaises œuvres après sa régénération. C'est tout cela qui déterminera le niveau, le contenu, le degré de notre vie là-haut. Vous vous souvenez de ce que dit l'apôtre Paul dans ce beau 15e chapitre de sa première épître aux Corinthiens, là où il décrit la vie de résurrection. Il dit que dans cette vie-là, une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Éphésiens chapitre 2 verset 41. Donc, les sauvés seront tous des étoiles de Dieu, mais une étoile différera en éclat d'une autre étoile. Il y aura donc une gradation, dit Paul, devant le tribunal du Christ. C'est justement cette gradation qui s'effectuera ce grand jour-là. Vous vous souvenez de l'entretien de notre Seigneur avec Salomé, c'était la mère de Jacques et de l'apôtre Jean. Eh bien, Salomé se prosterna un jour devant Jésus en lui demandant « Ordonne que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume et pourquoi pas l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Incontestablement, Salomé était une mère très ambitieuse. Mais je voudrais vous dire quelque chose là me concernant, parce qu'il ne faut pas avoir peur de dire la vérité et pas se faire passer pour mieux qu'on est. J'espère qu'il n'y a personne entre vous qui, comme moi, a risqué même de perdre son salut fictif. Une jeune fille qui s'appelait Evelyne, m'enseigna quelques rudiments de la parole de Dieu quand j'étais tout jeune. Si ma pauvre mémoire essaye de se rappeler, à 88 ans on peut avoir du Alzheimer, son nom était peut-être Jacou, et elle est devenue plus tard la femme d'un certain John Alexander. J'étais devenu milicien. J'ai entendu un champion prédicateur. Ah oui, alors ça, il faut le dire. C'était le père Alexandre de l'école biblique de Colonie. Ah, c'était un homme qui avait reçu un don de prédication hors du commun. Il était également virtuose du piano, inégalable. Je crois que j'ai accepté Christ en ce temps-là. Mais je ne savais pas que j'aurais dû être délivré de toute une série de démons. Ah, ça c'est un thème délicat, très délicat, très très délicat. Mais vous trouverez tout cela, si ça vous intéresse, sur le site internet, et je crois que c'est www.bibleexplique.ch. Mais revenons à notre étude. Ce qui est significatif pour notre étude aujourd'hui, c'est la réponse que a donnée le Seigneur à Salomé. Voyez-vous, il ne lui a pas dit « Je suis désolé, Salomé, tu me demandes quelque chose d'impossible, car il n'y aura pas dans le ciel de telles distinctions. Il n'y aura pas des trônes près ou loin de mon trône, mais ils sont tous au même niveau. » Il n'a pas dit ça. Non, 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 non. Vous pensez qu'il a dit ça? Non. Il lui a dit, Salomé, est-ce que tes enfants ont les qualifications exigées pour cette chose-là, pour cette chose que tu me demandes? Est-ce que tes enfants peuvent boire la coupe que je dois boire ou être baptisés du baptême dont je dois être baptisé, c'est-à-dire s'identifier très étroitement à mon dessein et à mon œuvre? Peuvent-ils venir si près de moi, ici-bas, qu'ils soient de plein droit, tout près de moi là-haut? Saint Matthäus, chapitre 20, versets 20 à 28. Donc, tous ceux qui ont été sauvés par le sang du Christ seront au ciel. Alléluia, on a bien compris. Mais voilà, il y aura des degrés différents là-haut, et on ne l'explique pas partout ça. Derrière la porte cochère, ce sera le ciel, et à côté du trône du Seigneur Jésus, ce sera aussi le ciel. Et si la sainte parole de Dieu nous montre clairement qu'il y aura là-haut ces degrés variés, elle le fait pour remplir notre cœur d'une inquiétude sacrée, d'une ambition sainte, celle de ne pas nous contenter d'une place près de la porte cochère, mais de nous avancer jusqu'au trône. Comme la sainte parole de Dieu est magnifiquement précise à ce sujet en deux endroits. Voyons cela. Dans la parabole des mines, tout d'abord, Saint Luc, chapitre 19, notez le verset 11 et lisez jusqu'au verset 27. Trois serviteurs se sont présentés devant leur maître pour lui rendre des comptes lorsque il est rentré de voyage. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Son maître lui dit, « C'est bon. Oui, c'est bien, bon serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vient aussi et il dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Et avec les mêmes paroles d'affection et d'éloge, son maître lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Nous aurons l'occasion de préciser ce que signifie le gouvernement de 10 villes et de 5 villes dans la dernière étude de cette série. Mais, on ne peut pas ne pas remarquer que d'après les paroles de notre Seigneur, il est manifeste que la vie que vont mener les croyants vainqueurs là-haut est une vie de gloire et de joie, mais qu'il y aura aussi pour eux divers degrés de gloire et de joie. Une étoile différera ou différera d'une autre étoile en gloire. Il en résulte encore plus clairement que le critère sur lequel se base cette gradation sera la façon dont les chrétiens auront mené leur vie, géré leurs talents ici-bas, et se seront servis des occasions que Dieu leur aura données. L'autre passage de la Bible se trouve dans la première épître de Saint Paul, de l'apôtre Paul, aux Corinthiens, je crois, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11, et noté jusqu'au verset 15. S'il vous plaît, veuillez lire ces indications attentivement dans vos Bibles. Je répète, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11 à 15. Ce passage de la Bible est très important et il faudra que nous, chrétiens, nous l'étudions plus souvent. Chers amis, le salut n'est pas donné comme une récompense, mais il est donné comme un cadeau. De tous ces passages de la Sainte Bible, il s'ensuit très clairement qu'en plus de son salut, autre chose est offert à l'homme, c'est-à-dire la récompense, le prix. Et tandis que le chrétien a reçu son salut dans le passé, après l'avoir désiré ardemment, ce quelque chose en plus, souvent, il l'ignore ou le dédaigne. Je l'ai fait ça, j'ai dédaigné. Et j'ai pensé, on peut vivre n'importe comment, puisque on a dit oui un jour, j'accepte Jésus. Et donc, tout est bon, tout est parfait, je peux continuer de vivre comme je veux. Je me suis lourdement trompé. Les œuvres des croyants seront donc passées. Vraiment, ils seront passés. Alors nous dit l'apôtre Paul, c'est comme si nous passons à travers ce feu pour que soient jugés justement s'ils sont en mesure, si nous sommes en mesure, de recevoir ce quelque chose en plus. En plus. Donc, les œuvres de certains alors, qui étaient de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses, sortiront du feu splendides et intactes. D'autres, dont les œuvres étaient du bois, du foin, du chaume, moi c'était même pire, se transformeront en cendres et en fumée. C'était mon cas. Ça aurait pu être vraiment mon cas. Et c'est terriblement sérieux, ça. Oui, je suis éternellement reconnaissant que Jésus-Christ m'a rattrapé par les oreilles et il m'a tiré en arrière. Ça a fait mal, mais il fallait qu'il le fasse. Et là, devant le tribunal du Christ, ce grand jour, il est très grave de dire cette chose-là, mes frères et sœurs, mais il faut bien le dire, il y aura deux catégories de chrétiens, excusez-moi, mais c'est comme ça, ça se trouve dans la Bible, c'est-à-dire ceux qui tiendront dans leurs mains palpables les traces de leur amour et de leur fidélité envers le Christ, et ceux qui se tiendront devant un petit tas de cendres, seul reste de leur vie d'ici-bas, après leur régénération. Les uns et les autres seront au ciel. Les uns et les autres seront sauvés et héritiers de la vie éternelle. Mais le niveau, le contenu, le degré, la qualité de cette vie, combien différents seront-ils pour chacun d'eux? Quand ce fameux père Alexandre avait expliqué cela avec une voix de ténor, eh bien, je n'y comprenais rien du tout, mais absolument rien. C'est triste à dire, mais c'est vrai. J'espère pas qu'il y en a parmi vous que ça arrive. Oh là là, parce que c'est affreux. J'avais entendu cela, mais ça passait d'une oreille et ça ressortait de l'autre. Mais il ne faut pas que vous agissez ainsi. C'est sérieux. Voyez-vous, dans cette même première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à remporter le prix. » C'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 9 et le verset 24. Voyez-vous, au jeu de l'Antiquité, le prix consistait en une couronne de laurier ou d'olivier. Ça, c'est l'image de la couronne que la parole de Dieu emploie pour parler du prix que Dieu donnera ce jour-là devant le tribunal de son Fils, en plus du salut à ses serviteurs dont l'œuvre n'aura pas été brûlée au feu. Un coup d'œil rapide sur certains textes du Nouveau Testament nous permet de distinguer trois couronnes. Mais je reviens à ce fameux père Alexandre. Il avait dit, mais je n'y ai rien compris. Il avait dit, oui, je vous annonce d'une façon, paraît-il, assez exceptionnelle et puissante, le salut, la parole de Dieu. Mais je dois vous dire une petite chose qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas aimer, c'est que nous pouvons prêcher à une église tous les dimanches matins, mais nous prêchons dans ce cas-là, il ne faut jamais l'oublier, pas forcément que à un troupeau de païens, mais dont le plus grand nombre sont sauvés, ont accepté Christ. Et nous prêchons tous les dimanches matins à, entre guillemets, des chrétiens. Donc, nous ne sauvons personne parmi eux puisqu'ils sont la plupart déjà sauvés. Ce qui est important, c'est d'aller chercher ou de tout faire. En ce temps-là, on pouvait encore donner des tracts. Ah oui, c'est vrai. Et donc, il n'y avait pas les codes aux portes. On pouvait entrer dans les maisons, dans les immeubles et mettre dans les boîtes aux lettres des tracts. Alors il disait, pour une seule âme que vous gagnez pour Christ, que vous gagnerez pas en prêchant tous les dimanches matins à ceux qui sont déjà sauvés, bien que c'est absolument important pour qu'ils grandissent encore. Mais c'est pas la même chose. Il faut essayer de chercher dans cet énorme troupeau de millions d'êtres humains qui ne sont pas sauvés, allez chercher une seule âme et vous verrez plus tard le bénéfice que vous en aurez au ciel. C'est peut-être pour beaucoup d'entre vous quelque chose d'éphémère, de virtuel. Non, ce ne sera pas virtuel. Alors je continue mon étude. Premièrement, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique qui, à sa prédication, se sont convertis au Christ, qui est en effet notre espérance ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus? N'est-ce pas pour vous aussi, lors de son avènement? 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19. Un chrétien peut avoir beaucoup d'occasions, beaucoup de talents et beaucoup de capacités. Mais un autre en a peut-être beaucoup moins. La récompense de chacun ne dépendra pas de l'abondance du fruit qu'auront porté ses grandes ou ses petites capacités, mais du degré de la fidélité avec laquelle il aura géré ses talents, même s'ils sont tout petits ait mis ses occasions et ses capacités, même si ses capacités sont tout petit, au service du Christ et de son Église. Et plus encore, les mobiles qui l'auront poussé à faire cela seront pris en considération. Par exemple, est-ce l'égoïsme? Est-ce la fierté? Est-ce le désir de se montrer, donc l'orgueil? Tous ces œuvres-là brûleront comme le foin et le chaume. Mais l'a-t-il fait ou l'a-t-elle fait par amour pour le Christ? L'a-t-il ou l'a-t-elle fait par désir de rendre service? Par souci pour une âme qui se perdait? De telles œuvres resteront de l'or, ah oui, de l'argent et des pierres précieuses entre ses mains. Deuxièmement, l'apôtre Paul écrit à Timothée « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8. La couronne appartient à tous ceux qui désirent la présence du Christ. Abraham était un homme de Dieu. Lot était aussi un homme de Dieu. Mais quelle immense différence entre eux ici-bas! Oui, différence qui, j'en suis sûr, continuera là-haut dans les diverses places qu'occuperont ces deux hommes dans la vie du monde à venir. L'un avait rempli son cœur de Dieu, de son amitié et de ses projets. Et l'autre avait son cœur plein de troupeaux et de vignes. L'un a vécu une belle et grande vie spirituelle entièrement offerte à Dieu et à son amitié. L'autre fut à grand-peine sauvé lui-même du feu de Sodome, après avoir vu toutes ses ambitions et tous ses rêves devenir de la cendre. Donc il existe des chrétiens du genre d'Abraham et d'autres du genre de Lot, ce qui risquait d'être mon cas. Et à chacun, ce jour-là, devant le tribunal du Christ, dans la vie céleste, sera donnée la place qui correspondra à sa vie de chrétien ici-bas. Et troisièmement, l'apôtre Jacques écrit dans son épître « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra quoi ? Il recevra la couronne de la vie. » Alléluia ! Jacques 1, verset 12. Et c'est la raison pour laquelle les tentations et les épreuves surviennent plusieurs fois dans la vie du chrétien. Chers amis, la tentation à laquelle vous avez résisté avec la force de Dieu et dont vous êtes sorti vainqueur ici-bas, deviennent un moyen de bénédiction pour vous-même et pour d'autres. Et là-haut, elle deviendra la couronne de vie que le Seigneur vous offrira. Voici un témoignage très émouvant qui décrit très bien cet aspect de l'épreuve dans la vie du chrétien, ainsi que la couronne qu'il recevra ou qu'elle recevra, oui, et elle le recevra, cette couronne, là-haut. Écoutons bien, un prédicateur australien raconte ses souvenirs des jours sombres de la Première Guerre mondiale. Il existait une coutume en Australie, lorsque un soldat était tué au front ou était fait prisonnier, le pasteur de l'église à laquelle appartenait la famille du soldat se chargeait le premier d'avertir les parents. Or un jour, pendant que je travaillais, nous dit ce témoin, dans mon bureau, voilà que j'ai reçu un télégramme dans l'enveloppe rose qui, habituellement en Australie, annonce des mauvaises nouvelles. Pendant une heure, j'allais et venais nerveusement dans mon bureau, ne pouvant trouver la force d'aller chez cette mère et pour lui annoncer la terrible nouvelle. Finalement, j'y suis allé. À l'expression de mon visage, elle a deviné que j'avais à lui annoncer quelque chose de très désagréable. Mes lèvres restaient fermées. Il m'était impossible de lui communiquer la mauvaise nouvelle, car elle était vraiment mauvaise. Elle m'exhorta à parler et elle me dit « Dites-le-moi, monsieur. S'il vous plaît, dites-le-moi. Je sais que vous avez quelque chose de terrible à me dire. » Moi, je ne pouvais pas articuler un seul mot, dit ce témoin, ce pasteur. Alors, elle reprit. « Lequel de mes enfants est-ce, monsieur ?» Car elle avait 3 enfants au front. « Lequel des 3 est-ce ?» J'ai enfin trouvé la force de lui répondre. « Ma chère sœur, c'est tous les 3. » À la suite d'un assaut, ils se sont trouvés tous les 3 ensemble et la mort les a enlevés. Elle a passé des jours très terribles, des semaines d'anxiété, cette pauvre mère, mais elle est sortie vainqueur du combat. Elle est devenue la meilleure, ou si vous voulez, le meilleur membre de son Église. Dieu l'a utilisée, cette femme, pour consoler d'autres mères peinées par le même déchirement, comme personne d'autre aurait pu le faire. Elle a versé du baume dans d'autres cœurs peinés. Un jour, cette femme est allée chez quelqu'un dont la maison était frappée par la mort. L'enveloppe rose était parvenue du front. Mais cette mère qui pleurait la mort de son fils ne voulait pas être consolée. Et se tournant vers elle, elle lui cria « Qu'est-ce que tu en sais, toi, de la mort des enfants? Toi, tu n'as pas perdu un seul enfant !» Alors la mère chrétienne a pu lui répondre « Moi, ma chère sœur, j'ai perdu 3 enfants dans cette terrible guerre. J'en avais 3, et Dieu me les a pris, et ils sont maintenant au ciel, car j'ai beaucoup prié pour eux. C'est pour cela que je veux t'apporter la consolation. La couronne de vie sera donc donnée là-haut aux croyants vainqueurs, vainqueurs de leurs multiples tentations et épreuves dont par la grâce du Christ ils auront triomphé et qu'ils auront transformé en sujet de bénédiction pour eux-mêmes et pour d'autres. Qu'il sera grandiose et grave à la fois ce jour-là devant le tribunal du Christ, mon frère, ma chère sœur, et comme nous devons être prêts pour ce jour-là. Lorsqu'il faudra comparaître devant le tribunal du Christ, et j'espère que nous y serons tous, y aura-t-il dans la maison de chacun de nous quelque chose de notre vie ici-bas à offrir, oui, à offrir au Seigneur Jésus? Pourrons-nous, chacun de nous, entendre des lèvres du Christ? C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Saint Matthieu, chapitre 25, verset 21. Que Dieu veuille nous aider, mes chers frères et sœurs, pour affronter les occasions et les responsabilités de la vie actuelle, de façon à être prêts à comparaître avec joie et triomphalement devant ce tribunal-là. Dire simplement « je suis fatigué, abattu, j'ai de la déprime », non. Réveillons-nous. Vous croyez qu'à l'âge de 88 ans, après avoir essuyé des attaques épouvantables de l'ennemi, où j'ai souvent été à l'article de la mort, vous croyez que j'ai pas dû me battre? Vous croyez que j'ai pas été abattu, déprimé? Bien sûr, mais il faut pas rester dans cet état-là en se disant « je n'y peux rien, je suis comme ça ». Non, 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 non. Croyez-moi, ça ne marchera pas, cette excuse-là, devant le Seigneur. J'ai compris que ça ne marcherait pas. Pourquoi essayez-vous pas aussi de le comprendre? Nous arrivons à un point très important de notre étude, c'est-à-dire les noces de l'agneau. C'est encore le livre de l'Apocalypse qui nous fournit des renseignements sur ce grand sujet. Comme nous l'avons déjà constaté, le langage symbolique de l'Apocalypse est souvent difficile, puisqu'il se rapporte à des événements de l'avenir. Nous resterons donc très très prudents dans ce que nous pourrons avancer. Il apparaît clairement, dans la narration prophétique de l'Apocalypse, que ici-bas, des choses effroyables arriveront, des événements que notre planète n'a jamais, jamais vu. Consultez le site internet à ce sujet, www.bibleexplique.ch. Là-haut, cependant, au-delà des nuages, là où se trouve maintenant rassemblée l'Église du Christ, un événement d'une extrême splendeur et d'une indescriptible beauté se déroule. La scène devant le tribunal du Christ est terminée. Les talents des enfants de Dieu ont été comptés. Leurs œuvres, celles qu'ils ont faites après leur régénération, ont révélé leur valeur à travers le feu du jugement divin et chacun reçoit sa couronne des mains du Christ. Cette scène solennelle se termine par un acte merveilleux que nous dévoile le livre de l'Apocalypse. Dans sa vision, l'apôtre Jean voit devant le trône du Christ les 24 vieillards qui symbolisent, je le crois, l'Église tout entière de la Nouvelle et de l'Ancienne Alliance. Ils portent les couronnes qu'ils ont reçues il y a un instant des mains du Christ. Et soudain, cette vénérable assemblée éclate en un hymne magnifique. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. » Apocalypse 4, verset 11. Aussitôt après, l'apôtre Jean voit ses couronnés s'agenouiller devant le trône du Christ, enlever les couronnes de leur tête et les déposer aux pieds du Christ. Du Christ, ils les ont reçus et c'est au Christ qu'ils les rendent. Ces hommes qui ont été persécutés ici-bas, et j'ajoute ces femmes, qui ont connu l'épreuve, qui ont combattu et qui, par la grâce du Christ, ont vaincu, déclarent maintenant avec éclat, là, sous les voûtes du ciel, que la force par laquelle ils ont pu vaincre leur tentation, utiliser leur talent, même si c'était tout petit, et servir leur Sauveur, venait de lui. Le souvenir de cette grâce du Christ qui les a accompagnés pas à pas ici-bas jaillit subitement là-haut. Alors eux, les vainqueurs, enlèvent la couronne de la victoire qui a tout juste eu le temps de réchauffer leur front et ils la lui offrent à lui, à qui elle appartient réellement. C'est sur ce geste si noble que se termine la scène qui se déroule devant le tribunal du Christ. Tout à coup, alors, une voix retentit dans le ciel. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Notez Apocalypse chapitre 19, verset 7. Voici la halte du voyage à travers l'éternité qui nous occupe aujourd'hui. C'est une halte importante et merveilleuse à la fois. Mais d'un autre côté, le sujet est extrêmement délicat et il nous faut avancer avec attention et avec une grande sobriété de langage. Ce qu'on peut dire en deux mots, c'est qu'il y a dans le plan divin du salut un moment précis et solennel où la relation entre le Christ et son Église deviendra merveilleusement complète. Et c'est alors que cette révélation mystique, ayant trouvé sa plénitude, sera proclamée dans le firmament de Dieu. Ce seront les noces de l'agneau. Cette image ne nous est pas inconnue, car ce n'est pas dans le livre de l'Apocalypse que nous la rencontrons seulement. La parole de Dieu a essayé bien des fois de nous parler de cette relation mystique qui unit le cœur du Christ à celui de son Église. La plus belle image que la Sainte Parole de Dieu a utilisée à plusieurs reprises, c'est celle de la relation qui s'établit par le mariage entre un homme et une femme. Chaque fois que nous assistons à une cérémonie de mariage, la Sainte Parole de Dieu, par son apôtre, nous rappelle cette notion du mariage. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport au Christ et à l'Église. Éphésiens, chapitre 5, verset 32. Je voudrais d'abord que nous jetons un coup d'œil sur la scène elle-même des noces. Ensuite, sur l'époux. Et enfin, sur l'épouse. Donc, tout d'abord, à quoi nous fait penser la scène elle-même du mariage? Où la placer dans le monde spirituel? Comment l'expliquer et quelles conclusions en tirer? C'est donc un devoir assez difficile. Qu'est-ce que le mariage pour les hommes? Non pas comme le péché l'a réduit, dans certains cas, mais qu'est-ce qu'il est dans l'intention de Dieu, qui est Dieu merci, réalisé dans bien des existences. Voyez-vous, le mariage est la satisfaction d'un grand et primordial besoin humain, le besoin de la compagnie et de la communication avec un autre être humain, d'une communication si étroite que les deux êtres perdent jusqu'à un certain point leur personnalité dans cette belle relation qui a été établie entre eux. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi, car comme il l'a dit lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse chapitre 2, verset 18. Ainsi, en instituant le mariage dans le jardin d'Éden, Dieu a voulu satisfaire un grand et profond besoin du cœur de l'homme. Nous le disons avec tout le respect voulu, quelque chose de semblable se produit dans le cœur de Dieu. Puisque Dieu créa l'homme à son image, un besoin analogue à celui du cœur de l'homme existe donc dans le cœur de Dieu. C'est-à-dire le besoin de communiquer réellement avec un autre être intelligent. C'est pour satisfaire ce besoin que l'homme avait été créé. Nous lisons tout au début du livre de la Genèse que Dieu, dans cette première chronique de l'histoire humaine, passait au milieu des arbres du jardin de l'homme. Mais la satisfaction de ce besoin a été malheureusement interrompu. La créature intelligente qu'il avait créée a cessé de tenir compagnie à Dieu. Alors du côté divin, une œuvre de rédemption a été imaginée dans le but de retrouver la satisfaction de ce grand besoin du cœur de Dieu. J'insiste sur ce du côté divin, car souvent on oublie que ce côté-là existe aussi. Nous sommes absorbés par la pensée de savoir ce que signifie pour nous le salut et ce que signifie le ciel. De cette façon-là, rarement nous pensons à ce que signifie pour Dieu le salut de l'homme et le ciel. Nous avons malheureusement réussi à transporter notre égoïsme, même dans le cadre de la vie chrétienne. Nous sommes ainsi habitués à voir la vie chrétienne et la vie du ciel seulement à travers le prisme des besoins humains et nous songeons jamais, jamais au côté divin. Ici-bas, ce besoin du cœur de Dieu trouve sa satisfaction dans la communion avec ceux qui sont régénérés, mais c'est une satisfaction partielle seulement. L'homme, en effet, même celui qui a goûté le bonheur de la nouvelle naissance, n'est pas encore en état d'offrir à Dieu sa compagnie. Et c'est pour cela que la scène des noces, considérée comme symbole de la relation intime qui unit le Christ à son Église, est mentionnée dans l'Écriture sainte par rapport à l'avenir et non pas dans son aspect complet par rapport au présent. L'apôtre Paul écrit aux membres de l'Église de Corinthe « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. » 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. C'est donc dans ce monde du péché, dans ce monde des imperfections et des limitations et sous cette forme provisoire que se vit la relation du Christ avec son Église. C'est le temps des fiançailles, celui des promesses. Les futurs époux attendent le jour où la promesse s'accomplira, le jour où les fiançailles céderont leur place aux noces. Alors notre Sauveur, le Christ, entrera dans une nouvelle relation beaucoup plus intime, beaucoup plus étroite et beaucoup plus cordiale avec son Église. Et c'est à ce moment-là que la table des noces sera dressée, cette table au sujet de laquelle l'époux avait composé tant de belles paraboles pendant sa vie terrestre. Autour de cette table, il y aura le Christ et il y aura son Église au complet. Et au-dessus passera le souvenir d'une autre table installée dans une mansarde, rappelez-vous, une mansarde toute simple de Jérusalem. Là, le Christ avait réuni une partie symbolique de son Église et pendant qu'il mettait dans le verre du vin le symbole de son sang que le lendemain il devait verser sur la croix, il avait dit « Buvez-en tous, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne » jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Saint Matthieu, chapitre 26, verset 27 et le verset 29. Donc, cette prédiction du Christ s'accomplira à la table des noces de l'agneau. Il y aura du vin sur cette table-là, du vin nouveau, du vin d'une nouvelle et inimaginable joie. L'époux alors se tournera et posera ce regard sur l'épouse. On en vient. Et il verra un par un tous ceux pour lesquels il a souffert. Oui, tous ceux qu'il a cherchés dans le pays lointain et qu'il a sauvés. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Ésaïe, chapitre 53, verset 11. Donc, ce sera, je le crois, le moment le plus saint de la vie du ciel. Telles seront les noces de l'agneau. Mais pendant que le Christ et ses invités sont réunis autour de la table des noces, jetons un peu un coup d'œil rapide sur les poux. Je dis rapide car nous avons des raisons de vouloir examiner plus attentivement l'épouse. Le fait qui tout d'abord nous étonne un peu, c'est le nom de l'époux. Pourquoi l'Écriture sainte appelle-t-elle cette halte dans le beau dessein de Dieu, les noces de l'agneau? Lorsque, autrefois, le Seigneur Jésus avait raconté la parabole qui esquissait d'avance cette belle scène là-haut, il avait utilisé un autre nom pour parler de l'époux. Il était fils de roi. Et dans cette parabole des noces, Jésus avait dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui vit des noces pour son fils. » Il faut dire qu'il a fait des noces pour son fils, qu'il les a préparées. Saint Matthieu, chapitre 22, verset 2. Je le répète, le royaume des cieux est semblable à un roi qui a préparé des noces pour son fils, selon une version allemande. Matthäus 22, verset 2. C'était alors les noces du fils d'un roi. On se dit alors qu'il serait plus convenable que l'Écriture sainte appelle la scène émouvante que nous considérons aujourd'hui les noces du roi des cieux plutôt que les noces de l'agneau. Pourtant, s'il en est ainsi, ne serait-ce pas pour nous rappeler, et cela pendant toute l'éternité, la relation par excellence qui unit le Christ à son Église, la relation du sacrifice, la relation de la croix. Nous disons les noces de l'agneau, et notre pensée va immédiatement à l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Je crois que c'est dans Apocalypse chapitre 13, verset 8. Elle va aussi à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Saint Jean, chapitre 1, verset 29. Elle va donc à l'agneau pascal de Dieu qui s'est offert sur la croix pour le péché de l'homme. Si cela n'avait pas eu lieu, il n'y aurait pas non plus les noces du Christ avec son Église. Voilà la relation fondamentale qui unit le Christ à l'homme. La relation fondamentale, j'ai dit, qui unit le Christ à l'homme. C'est donc celle qui s'établit par la croix et par l'acceptation, par la foi de la part de l'homme du sacrifice du Christ comme seule base de son salut. Et l'épouse, qui sera-t-elle? Ici, nous mettons le pied sur un sol très glissant et il faut avancer avec beaucoup d'attention et de prudence. Qui, chers amis, est l'épouse? De toute évidence, c'est l'Église. Mais quelle Église? Laquelle de toutes les Églises, je vous le demande? Car c'est ce phénomène triste et inattendu que l'on constate à travers l'histoire des églises du Christ. Plusieurs épouses de l'agneau sont apparues et chacune d'elles a revendiqué l'honneur de ce titre, toutes en excluant les autres. Vous savez ce que je veux dire. Ensuite, ces prétendues épouses du Seigneur se sont évertuées avec une sainte ardeur à proscrire les autres, à les persécuter, à les brûler et à s'exterminer les unes les autres. Combien de petitesse, combien de passion, combien d'égoïsme dans l'antichambre nuptiale du Christ. Mais de toutes les épouses, quelle est donc la réalité, la véritable épouse de l'agneau? Laquelle s'assiera ce jour-là à la table de noces du Christ? La seule réponse que l'étude de la Sainte Parole de Dieu permet de donner à cette question est aucune. Oh là là, écoutez cela. La seule réponse que l'étude de la Sainte Parole de Dieu permet de donner à cette délicate question est qu'il n'y a aucune Église. Aucune, en effet, ne peut affirmer que l'ensemble de ses membres est régénéré par la grâce du Christ et qu'ils seraient tous, par conséquent, des membres du corps du Seigneur. Aucune Église parmi celles qui sont visibles, aucune de celles instituées dans le cadre de la société humaine ne peut, telle qu'elle est, revendiquer le titre d'épouse de l'agneau. Incontestablement, elles offriront toutes de leur sang à l'Église réelle. Le Seigneur recrute donc les siens dans toutes les églises, car elles contiennent toutes, dans une plus ou moins grande proportion, quelques âmes régénérées. Mais aucune d'elles, telle qu'elle est, ne se présentera pour s'asseoir ce jour-là à la table de l'époux. Si donc aucune parmi les églises visibles n'est l'épouse du Christ, il faudrait alors que l'épouse soit un corps invisible, mais réel. Inconnu peut-être aux yeux des hommes, hein, mais bien, bien connu aux yeux de Dieu. À ce corps invisible, mais réel, appartiennent, indépendamment des nuances dogmatiques et des appellations ecclésiastiques, tous ceux qui, par un acte conscient de leur volonté, ont accepté le Christ comme étant leur Sauveur et Seigneur personnel. Tous ceux qui ont senti le lourd fardeau du péché et qui, dans un tout simple acte de repentance et de foi, l'ont déposé sur la croix du Christ, tous ceux-là qui ont échangé les loques infectes, non seulement de leur péché, mais aussi de leur vertu, contre la tenue immaculée de la justice du Christ, eh bien, cette totalité des chrétiens véritables, c'est cette totalité-là qui constitue le corps invisible mais réel de Jésus-Christ. Ça ne va pas plaire à tous. Voilà donc l'épouse de l'agneau, cette explication, je le répète, ne va pas plaire à tout le monde. Et question délicate pour terminer notre étude, si on y arrive. Heureusement, cela se passera après la résurrection et les croyants auront laissé dans la tombe leur fanatisme, leur égoïsme, leurs soupçons, si bien que s'assieront là-haut, à la table de la joie, des gens qui n'acceptaient pas de se mettre côte à côte, ici-bas, autour de la table de communion. J'ai connu cela. Et ils jouiront de la compagnie les uns des autres, privilège dont ils auront été privés parfois ici-bas. Oui, ils jouiront pour la première fois pleinement de cette nouvelle relation qui s'établira entre eux et le Christ. Mais j'ai oublié de vous dire, si ça a été parfois mon cas, que on n'a pas voulu trop de moi autour de la table, c'était pas la faute à tous les autres. C'était ma faute. Revenons à notre étude pour terminer. Voilà les noces de l'agneau. Voilà donc la fête qui n'a pas de soir. Voilà la table de l'amour où étincellera le vin nouveau qui ne s'épuisera pas, le sourire d'un bonheur sans nuage qui ne s'éteindra jamais. Serez-vous, chers amis, à cette grande fête, vous, mon frère, ma sœur qui venez d'écouter ce message, c'est à vous de décider maintenant. C'est une prière que je vous demande de faire dans votre cœur avec deux, trois mots tout simples, tout simples. Serez-vous associé, mes chers amis, à l'épouse de l'agneau? Je ne vous demande pas à quelle église vous appartenez, mais non, ni quel surnom dogmatique vous portez. Cela est d'un intérêt très secondaire. Mais si le sang de Jésus-Christ a lavé votre cœur, alors vous êtes membre, écoutez bien, vous êtes membre de son Église invisible. Gloire à Dieu! Et si cela a été fait, alors vous aussi, vous serez là, là, lorsque la table de noces sera mise là-haut. Vous serez là, vous aussi, pour participer au plus beau moment du ciel. Chers amis, je ne vais pas vous faire une prière pour que vous la répétez simplement après moi, ce que je pourrais faire. Mais je voudrais simplement vous demander pourquoi ne pas se mettre à genoux, pour autant qu'on le peut, à 88 ans, avec le canal Lambert qui coince, c'est parfois difficile. Mais on peut se mettre à genoux dans le sens spirituel, dans le sens de l'humilité, même en étant assis dans un fauteuil, et simplement dire à votre adorable Sauveur et Seigneur, je t'accepte, oh, je t'accepte, mon roi, mon Sauveur et Seigneur, pour que tu prennes ma vie entre tes mains, pour t'appartenir éternellement. Je t'accepte maintenant. Pourquoi ne pas le faire? Vous le faites chez vous. Personne ne vous dérange. C'est entre vous et Jésus-Christ. Demain matin, Dieu voulant, nous aurons la suite, la grande tribulation. Je vous souhaite, comme on dit des fois, bon vent pour la fin de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il met du baume sur quelques plaies que vous avez peut-être. Et n'oubliez jamais, il vous aime à un tel point qu'il s'est sacrifié pour des gens aussi épouvantables que j'étais. S'il a pu le faire, ce sacrifice, pour des crapules comme moi, il peut le faire pour des gens qui sont beaucoup mieux, qui sont beaucoup moins pécheurs. Mais il est vrai que ceux-là aussi, qui sont presque parfaits, ont besoin du salut. Ah oui, c'est incontournable. À bientôt, à demain matin, Dieu voulant. Au revoir, très chers amis.